7h-9h, plus près de toi.
Bonjour, il était un peu long ce week-end, c'était le week-end de Pâques, retour. Retour de Pâques, retour des œufs, retour des rituels, les familles et leurs spectacles, les enfants qui rient, qui pleurent, qui cherchent, qui trouvent, qui mangent, qui rient, pour qui on cache. Il va falloir parler d'autre chose que des noms, les sujets qu'on nous propose. Les candidats, les élections, les reines, les fous, les rois, les pions. Il va falloir trouver d'autres sujets, il va falloir d'autres idées. Il va falloir que la vie reprenne ses droits. Les nous, les je, les moi, les toi. Pas ceux d'en haut, pas ceux qui parlent. Ceux qu'on écoute, mais nous-mêmes. On va se retrouver face à ce vide, à ce plein, à nous décider. Journée post-électorale, d'autres peines. Chasse celle-là, d'autres histoires les remplacent. Il va falloir trouver autre chose. Alors, d'accord, donc ça assure pas que c'était pas non plus très clair. Voici le journal de Thierry Paré, bonjour.
Bonjour.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Très, très près.
Plus près de toi.
Très, très, très près.
C'est le titre de l'émission.
Vous avez eu l'heure, non?
Juste avant d'aller à l'école, c'est parfait.
7h-9h, plus près de toi.
7h-9h, Édouard Baird. Pouette, pouette, la hurlette. Tagada, la queue du rat.
Je vous jure, ça vaut le coup.
Bonjour.
Salut, quel est
le journal, Thierry?
Salut Edouard, bonjour à tous. Les internes, on va parler des internes en médecine qui sont appelés à la grève aujourd'hui. Le principal syndicat d'internes appelle à la grève pour réclamer l'allongement du temps de formation dans le cadre de la réforme du troisième cycle des études médicales. Les internes ont reçu le soutien, entre autres, du premier syndicat de médecins libéraux, ce qui n'est pas rien, le CSMF. Autre mobilisation, ce mardi toujours, celle des patrons d'auto-école. Ils vont se mobiliser aujourd'hui dans plusieurs villes, dont Paris et Toulouse également, contre la dématérialisation de l'inscription au permis de conduire, symbole de l'ubérisation du secteur selon eux. Il risque d'y avoir quelques opérations escargots. Et puis en Guyane, après un mois de conflit, la mobilisation se poursuit et même s'amplifie puisque les Guyanais ont décidé de refermer les barrages érigés au début de leur mouvement,
oui,
faute d'accord signé avec le gouvernement. J-5 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle, les candidats jettent donc leur dernière force dans cette campagne. Ce mardi va être marqué par une nouvelle initiative de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de la France Insoumise sera en meeting à Dijon et dans 6 villes, autres villes en même temps, Montpellier, Grenoble, Nancy, Clermont-Ferrand, Nantes et au Port, c'est sur l'île de la Réunion, grâce à des hologrammes, c'est une technique déjà utilisée par le même candidat début février entre Lyon et Aubervilliers en région parisienne. Tout va se jouer cette semaine, c'est entre autres ce qu'a déclaré hier Jean-Luc Mélenchon qui a pris la parole depuis la péniche insoumise. Le candidat s'est offert une traversée de l'Île-de-France en 6 étapes, le long du canal de l'Ourcq jusqu'à la grande bibliothèque.
Et pendant une péniche insoumise, c'est-à-dire elle va où elle veut, c'est-à-dire qu'il est dessus, il pense aller quelque part, elle va ailleurs.
Ouais, je crois que c'était bien prévu. D'accord. Le programme, mais ouais. Bon, voilà.
Il y a eu 6 étapes. Vous n'avez pas beaucoup de nouvelles de mon petit Dupont-Aignan, ça.
Alors, Dupont-Aignan, j'en ai pas.
Alors, ça, j'en note à ça vraiment. Hein, je trouve ça un peu tout ça tendancieux. Hein.
J'en ai d'Emmanuel Macron, en revanche, hein, parce que si certains naviguent sur les canaux parisiens, eh bien, d'autres font un grand meeting, en l'occurrence, son plus grand meeting de la campagne. C'était à Bercy hier. 20 000 participants. Emmanuel Macron a défendu une France, je cite, ouverte, confiante, conquérante, à laquelle il veut rendre son optimisme en plaidant pour l'accession aux responsabilités d'une génération nouvelle. Toujours à Paris, Marine Le Pen tenait un meeting au Zénith. Elle est revenue à ses fondamentaux. C'est un meeting très axé sur l'immigration. Il y a eu des heurts qui ont opposé des militants anti-FN au CRS à proximité du Zénith, plutôt vers la porte de Pantin. Et puis à l'intérieur du Zénith, deux fémènes ont tenté de perturber le meeting de la candidate de l'extrême droite, dont une qui a réussi quand même à s'approcher très près de Marine Le Pen. Les deux militantes ont été expulsées manu militari. François Fillon, pour sa part, s'est posé à Nice hier. Le candidat de la droite est allé à la rencontre des Niçois avant de prendre la parole au Nikaya, accompagné de Christian Estrosi, qui a essuyé les sifflets des militants.
Le Nikaya, il y avait une finale de Miss France où j'avais été par hasard. Ça intéresse
par hasard, bien sûr.
Avec Ahmed Kelly, je vous en parlerai à 7h12.
Très bonne soirée, on avait passé.
François Fillon,
ce ton de voix dégueulasse.
François Fillon qui n'exclut pas la participation à son gouvernement d'éventuel, enfin son gouvernement éventuel de l'association Sens Commun, vous savez cette émanation de la Manif pour tous. Au moins 2000 personnes sont descendues dans les rues d'Istanbul hier soir pour contester le résultat du référendum sur l'extension des pouvoirs du président Recep Tayyip Erdogan. Le oui l'a emporté avec 51,4% des voix. Le résultat du scrutin a été contesté par les deux principaux partis d'opposition, contesté aussi par les observateurs de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, qui donc ont émis aussi des réserves. Ils ont indiqué que le résultat de ce scrutin était en deçà des normes internationales. C'est l'une des plus importantes grèves de la faim de prisonniers palestiniens que l'on ait vu depuis 20 ans. Il serait plus de 1000 selon l'administration pénitentiaire israélienne, 1500 selon les associations de défense des prisonniers, à avoir entamé ce mouvement collectif hier, répondant à l'appel de Marwan Barghouti, dirigeant emblématique du Fatah, condamné à la prison à vie. Objectif de cette grève de la faim illimitée, dénoncer les conditions de détention des 6300 palestiniens incarcérés en Israël. De nombreuses manifestations de soutien étaient aussi organisées hier en Cisjordanie. On en reparlera, mais samedi prochain, jour de la Terre, dans plus de 500 villes dans le monde, des chercheurs et des citoyens vont marcher pour défendre les sciences, une mobilisation planétaire pour défendre la recherche et la démarche scientifique basée sur des faits vérifiés et la rationalité. C'est un mouvement qui est parti spontanément de discussions aux États-Unis, discussions en ligne, quelques jours après l'investiture de Donald Trump.
Ok.
Oui.
Oui.
Oui,
tu étais en vacances. Vous n'étiez pas là?
J'étais pas là.
La semaine dernière.
Ah bon?
Tu n'étais pas là.
Ah, ah bon?
T'étais où? C'est bien gentil de revenir à la bouche en fer. Oui, Trump, les okay. élections, ah bah. Gna gna, là là. C'est-à-dire je suis au courant de ce qui se passe.
Et tout bronzé.
Hein? Alors
oh, tout bronzé.
Alors, auprès de la princesse.
Allez, hein, on va dire. Allez,
ça sort de la poche avec qui l'argent de vos vacances.
Monsieur, c'est
ça sort
monsieur,
de la poche du con. Eh ben du con, il en a marre. Hein? Il y a une surfiscalité à 9 ans pour payer vos vacances, pareil. Il y a Rolin qui arrive à quelle heure? Rolin, vous êtes payé de 7h à 9h, il est 7h07. Vous arrivez en fin de journal. Vous êtes dans le journal ou pas?
Vous faites partie
du journal?
Oui.
Quelle rubrique? Sport?
Eh bien, la rubrique 7h07, c'est-à-dire pas les premières minutes, ça, c'est pas du tout mon truc. Mais à partir de 7h07, je suis à fond.
Vous voulez dire que le contenu et le contenant et le parlant,
très lié
c'est
à
pareil?
Bah oui, oui. Bah oui.
Mais c'est-à-dire, vous allez parler du fait. La rubrique de 7h07, c'est du fait qu'il est 7h07?
Bah oui, de quoi voulez-vous parler d'autre à 7h07?
Le monde est en feu.
Oh là,
il y a mon petit leader nord-coréen qui est
vous en train de. Vous avez la grosse tête.
Il y a des élections dans 3 jours, vous en foutez tout ça.
On parle très simplement de l'heure qu'il est, on va pas commencer à s'embarquer pour des contrées que vous ne connaissez même pas, vous ne parlez pas un mot de coréen.
Attendez, détrompez-vous, l'ami. Tout doux déjà. Je n'ai pas surcommandé, surdemandé de l'un ou l'autre à montrer ma pratique des langues. C'est tout. Maintenant, il est 7h08. Est-ce qu'on parle encore de 7h07?
Non, ça y est. Ben, ça y
merci.
On a fait le tour.
À tout de suite. François, vous voulez une B-News?
Une Noumeyou de Pichou?
On dit une B-News ou une B-News?
Je crois. B-News, oui.
B-News, c'est. On prononce pour une bière B-News?
B-News.
Oui. J'aime bien ce mot. J'ai peur qu'il me reste dans la journée toute la tête. Je vais essayer de m'en débarrasser sur le dos des auditeurs.
Dans la tête toute la journée.
B-News. Tiens, je prendrais bien une B-News. Qu'est-ce qui s'est passé? Le générique des Connoisseurs, ça plaît bien ce truc-là? Ça plaît bien. Ça marche bien en ce moment?
Ah, c'est super.
On peut en fourguer un peu. Alors, c'est l'équivalent du lundi parce que hier c'était férié, ça ne vous aura pas échappé. Donc ce matin, il va falloir digérer toute la semaine, Pascal, en une revue de presse générale de tout le monde. Marie Misset,
oui,
souhaitez-vous l'ouvrir par une première affaire?
Très bien, c'est dans le New York Times et c'est les Romains qui sont en colère parce qu'on est en train de remplacer leurs anciennes lampes dans le centre-ville.
Les Romains de Rome, pas les Romains d'Antiquité.
Les Romains de Rome, oui.
D'accord.
Oui, ils sont en colère, donc c'est au présent.
Enfin, très bien, bien sûr.
Et ils sont en train de remplacer les anciennes lumières qui faisaient une sorte de halo doré un petit peu flou par des LED.
La nuit, hein, tout ça c'est la nuit.
Oui, par des LED qui font une lumière blanche.
À Paris aussi, vous savez qu'on installe des LED. On a eu quelqu'un au téléphone le jour sur ce sujet brûlant.
Parce que c'est plus environnementalement friendly, comme c'est écrit dans le New York Times et que j'arrive pas à le traduire là maintenant tout de suite.
Respectueux.
Et alors les gens à Rome sont très en colère. Ouais. C'est Virginia Riaggi, la maire de Rome, qui a décidé de ce changement et ça les rend fous. Ils trouvent que Rome n'est plus romantique. Alors on leur dit Rome restera belle même avec des lumières blanches. Et il y a un gros débat en ce moment là-dessus. Et il y en a qui disent oui, c'est vrai que c'est mieux parce que ça prend moins d'énergie.
C'est très laid,
les musiques,
les lumières LED, les nouvelles ampoules qu'on est obligé d'acheter, c'est terrible. La beauté ou les économies, ça sera un grand débat à 7h22. Donc, qu'est-ce qui va se passer alors?
Eh bien,
on peut
pour
rien
l'instant,
faire contre...
la colère gronde, mais je ne sais pas si ça aura des conséquences solides.
Pardon?
La beauté des LED se voit sans des LED.
Très bien, bel hommage à Gainsbourg par Ahmed Kelly, je vous remercie. François, que peut-on faire contre la laideur?
Mais non, peut-être qu'on va s'habituer, parce que je me souviens, c'était un petit peu avant-guerre, lorsque les phares des voitures sont devenus blancs, oui. Alors qu'ils étaient jaunes auparavant, nous étions tous choqués, nous disions quelque chose se perd. Et aujourd'hui, c'est lorsque nous voyons des phares jaunes que nous disons, oh là là, les vieux sont de retour.
Plus généralement, vous préférez faire des économies et aller en hypermarché à l'entrée de votre ville ou fréquenter votre commerce de proximité plus cher, mais qui maintient la beauté?
Oui. Qui maintient la beauté, ça. Oui,
le prix de la beauté.
Je suis vachement pour la beauté, mais je ne suis pas sûr que la beauté soit forcément du côté du jaune. Il y a peut-être aussi une beauté du côté du LED.
Bien sûr, mais on parlait d'un jaune du doré. On parlait de doré ou d'un truc qui rappelle plus la lumière d'hôpital où vous allez aller si vous continuez à me contredire.
Ah, je crois que j'ai bien reçu le message.
Alors, merci François. Thomas ?
Oui ?
Bonjour.
Oui, pardon.
Bonjour.
On craint un peu, non ? Oui. Non, je ne sais pas ce qui va se passer.
Allez-y doucement,
qu'est-ce
que vous avez prévu ce matin ?
Vous avez raison. Ah non, c'était après.
Oui, mais alors là, je n'ai rien dit. Regardez, là, il faut attendre que je dise une vérité.
Ah, pardon. Voilà. Non, il y a une tribune de Guy Sormand dans Le Monde, datée d'aujourd'hui, qui explique que Kim Jong-un, le leader nord-coréen, est normal. Et qu'il ne faut pas se méprendre. C'est un peu un message à Donald Trump que fait Guy Sormand, qui est un spécialiste des États-Unis par ailleurs. Il dit que dans le contexte des civilisations locales, donc nord-coréennes, le confucianisme coréen, en particulier, Kim Jong-un est plutôt normal. Ne pas plier, ne pas négocier, ne pas perdre la face, c'est être coréen. Ouais, c'est un synonyme en quelque sorte.
Et il ne faut pas l'humilier.
Surtout pas, il ne faut pas prendre sa résistance comme une forme de provocation, en tout cas pas trop, surtout ce que dit Guy Sormand. Kim Jong-un, rappelle-t-il, se prend pour une divinité quand même.
Normal.
Voilà, et il est honoré comme tel parce que son personnage est une constante de l'histoire coréenne. Voilà, tout ça, dit Guy Sormand, est évidemment insaisissable par Donald Trump parce que trop complexe, ce qui est très inquiétant.
Donc
quand
ce
même,
sont des conseils à donner sur la diplomatie.
Absolument.
Très bien. Alors, on ramène toujours, vous savez, la grande actualité à nos vies, à nous. Et je dois aller en Corée du Sud là, pour un festival de cinéma dans 8 jours. Ai-je des risques ? Dominique Régnier, vous me conseillez d'éviter ou pas ? Je vais recevoir une bombe atomique sur la gueule ou pas ?
Voilà, il y a quelques risques quand même en ce moment. Hein, surtout que ce qui vient de nous être expliqué, c'est qu'il ne fallait surtout pas contredire.
Oui, mais est-ce qu'il va s'attaquer d'abord à la Corée du Sud parce que ses missiles n'atteignent pas les États-Unis ?
Non, il peut s'attaquer peut-être à la flotte américaine qui est au large.
Oui. Donc je peux aller en Corée du Sud, mais pas sur un bateau de guerre américain en vacances.
Ça, c'est ça qu'il faut éviter.
Merci.
Les sensations, ils seront plus fortes.
Les sensations sont plus fortes. Merci, Dominique. Bonjour, Atmen Khelif.
Bonjour, Edouard.
Bonjour, c'est excellent.
Tout le monde a peur un peu, quand même.
Moi, je voulais juste parler, ça m'a fait rire, de la commémoration du dernier duel en France qui a lieu il y a 50 ans, 67, entre Gaston Defferre et René Ribière. Deux parlementaires qui se frappaient à l'époque à l'épée.
Qui se frappaient pas, oui, qui se battaient.
Qui se battaient à l'épée.
C'était au sabre ou au fleuret, je
c'était,
sais
plus. C'était au fleuret. D'accord. Alors, ils ont essayé d'éviter les journalistes et la police parce que c'était interdit. Ils l'avaient traité d'abruti dans l'Assemblée nationale.
Oui. Taisez-vous abruti.
Taisez-vous abruti, avait-il dit. Il a dit rendez-vous au pré, hein, comme on disait. Et de faire dit dépêchez-vous, j'ai un train pour Marseille. Donc, ils ont accéléré la chose. Et il lui a dit tu es tellement abruti que je vais essayer de toucher une partie un peu intime pour que tu n'aies pas. Que tu ne respectes pas ton mariage, lui avait dit Gaston Defferre.
Parce que Ribière devait se marier le lendemain.
Voilà. Donc c'était un duel au fleuret, je crois que ça s'arrête au premier sang, un duel.
On est pas obligé
de faire l'autre.
Sang,
dès qu'il y a du sang versé, on arrête, il y a des témoins.
Voilà, et de Defferre réitère derrière, tant mieux qu'on arrête là, de toute façon c'est un abruti congénital. Voilà.
D'accord, et alors qui a reçu un coup de fleuret finalement?
C'est Ribière sur le bras.
Ribière avait été touché au bras,
voilà.
Un peu de sang.
Voilà,
ça vous manque les duels, François? Vous souhaiteriez qu'il y ait le retour du duel enfin?
Jusqu'à tout à l'heure, non, ça ne me manquait pas, mais vu la façon dont vous m'avez agressé. Ça, je me suis dit,
non, je vous prie de
qu'est-ce qui me reste?
Je vous prie de m'excuser, c'était pour évoquer l'idée des lumières plus ou moins chaleureuses. Vous savez, c'est scientifique, la chaleur de la lumière rouge ou la lumière bleue, le jaune ou le blanc. À tout de suite.
Vous avez raison.
Merci à tous. Pardon.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi?
On comprend pas tout, mais c'est bien.
Un peu dur le matin, ça, non?
Moi, j'aime bien.
Oui,
dès qu'il y a des guitares, je suis content.
Vous êtes bizarre.
C'est vrai.
C'est un compliment. Bonjour, Dominique Régnier.
Bonjour, Edouard Baird.
Dominique, c'est la première campagne présidentielle où les réseaux sociaux sont aussi influents, où les candidats comptent beaucoup sur les messages qu'ils y font passer. Qu'est-ce qu'on peut en tirer?
Oui, c'est un monde médiatique parallèle qui gagne en puissance. Il n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui dans notre élection présidentielle. C'est le cas dans les autres élections d'ailleurs. On l'a vu aux États-Unis, on l'a vu pour le référendum du Brexit, etc. C'est un monde qui échappe aussi à toute régulation. C'est une des caractéristiques de cet univers-là. C'est aussi un monde qui est très, très ouvert. Alors, il y a une espèce de paradoxe constant quand on parle des réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il y a le pire et le meilleur. Et de la même façon, pour les candidats, c'est à la fois un outil extraordinaire et à proprement parler démocratique. Les petits candidats peuvent agir sur les réseaux sociaux sans avoir besoin de moyens considérables. Je ne dis pas qu'il n'en faut pas parce qu'on peut avoir une influence plus grande si on a plus de moyens, mais c'est vraiment le média du candidat pauvre. On peut
il faut être plus malin, là, on n'est pas obligé d'être plus riche.
Voilà, il faut être plus malin et puis il faut avoir plus de soutien sincère et vrai. Il y a des candidats qui achètent des faux comptes, qui se font un peu mousser sur les réseaux sociaux, mais ça se voit assez vite. Il y a une espèce de communauté vigilante. La plupart des comptes sont tout de même des comptes réels. Et donc, quand on est un petit candidat, on peut réellement partager son message. On peut rencontrer de nouveaux publics. C'est vrai aussi pour les candidats importants.
Qui est très actif, Dominique Reynier. Alors, on sait que Mélenchon, il est très puissant sur Internet. Il y a énormément de gens qui sont derrière lui. Il y a beaucoup de webmasters, de gens qui interviennent sur les réseaux. Pour lui, Marine Le Pen, qui
de... Alors, sur Twitter, Jean-Luc Mélenchon a 1 100 000 followers. Il y a eu une polémique récemment, puisque le 14 avril, un de ses partisans a créé 39 comptes Twitter et a généré 3 000 tweets. Donc il s'est mis à la manœuvre et il s'est mis à produire de manière industrielle des tweets pour laisser penser qu'il y avait une foule en train de... Et la plupart, les 70% des comptes de Jean-Luc Mélenchon sont des faux comptes. Donc il y a aussi ces effets-là. Mais ce qui est très rassurant, c'est qu'il y a toujours un internaute pour s'en apercevoir et le partager avec tous. Donc il y a une espèce de surveillance partagée qui est l'aspect positif de cet univers-là. Après, il y a aussi le problème des fausses nouvelles qui circulent sans contrôle à grande vitesse. Et on peut s'y laisser prendre soi-même. Hein. Ça m'est arrivé, moi, d'ailleurs. Ça m'est arrivé. Il y a des personnes qui vous garantissent qu'elles ont vu quelque chose. Et en fait, non, c'était pas tout à fait ça. Ou bien c'était carrément faux.
Mais ça, c'est pas véhiculé par les candidats eux-mêmes. C'est quand même contrôlé, la communication des candidats à la présidentielle.
Oui, ils n'envoient pas les candidats eux-mêmes font très attention.
Les fake news, ça n'est pas les candidats.
En tout cas, ils font très attention. Mais alors, ce qui est certain, c'est qu'ils ont tout un monde autour d'eux qui, lui, peut se laisser aller à diffuser, y compris des informations inexactes ou carrément fausses. C'est la difficulté, c'est un monde qui n'est pas régulé sinon par ses utilisateurs, mais c'est aussi la beauté de cet univers-là.
Qu'est-ce qui se passe, par exemple? On sait que sur Internet, c'est impossible de contrôler le temps de parole, par définition. Donc, il y a des gens qui trouvent que c'est un peu obsolète aujourd'hui à la télévision et à la radio aussi, qu'il y ait le même temps de parole pour chaque candidat, vu que de toute façon, il y a Internet à côté.
Il y a effectivement une impossibilité de contrôler le temps de parole sur les réseaux sociaux. La télévision appartient à un monde qui encore domine, hein, il ne faut pas aller trop vite, hein, qui domine la campagne présidentielle. Hein, ça reste un média fédérateur, la télévision.
Et vous dites qu'il domine, c'est-à-dire qu'on peut vérifier vraiment l'influence réelle et le temps passé devant la télévision par rapport au temps passé devant Internet. Je ne suis pas sûr du tout que ça domine la réalité de ce qui nous informe aujourd'hui.
Alors, pour préciser, je veux dire par là qu'à la télévision, vous avez par exemple le débat qui a eu lieu le 4 avril, vous avez 6 millions de personnes qui le regardent. C'est pas facile d'avoir 6 millions de personnes qui vous suivent sur le net. Et puis, c'est des personnes que vous n'aurez pas sur le net, probablement. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, il y a un phénomène que moi, je trouve passionnant et qui est une caractéristique. On le fait probablement, on est assez nombreux à le faire, on s'en aperçoit pas beaucoup, mais c'est quand vous regardez un débat politique, vous regardez ce qui s'en dit sur les réseaux sociaux en même temps. Et là, c'est extraordinaire de voir cette espèce d'interaction permanente entre des candidats et le public, avec son intelligence, son humour féroce, sa volonté de vérifier les faits qui sont avancés par les candidats, les manipulations, les batailles idéologiques, les insultes, les menaces, il y a de tout. Hein. Mais il y a une extraordinaire ébullition. Et regardez aujourd'hui un débat ou l'interview d'un candidat, et en même temps, vraiment en même temps, ce qui se dit sur par ceux qui le soutiennent ou ceux qui le combattent sur les réseaux sociaux, c'est un exercice tout à fait nouveau en lui-même et extraordinairement enrichissant.
Et le fait que les moins de 30 ans soient habitués maintenant à des vidéos très courtes, qui soient déjà digérées par d'autres copains qu'on fait circuler entre nous, est-ce que vous croyez que ça a une influence même sur la façon de parler à la télévision? Est-ce que tout à coup on doit se dire, on est concurrencé par ces vidéos très courtes, par ces discours, par ces petites phrases, par ces, par tout ça. Est-ce que tout à coup, ça force à ce qu'il y ait plus de mouvements, plus d'accidents, plus de petites phrases à la télévision?
Je voulais traduire la question d'Edouard, c'est est-ce qu'il reste une place pour Jean Lassalle, par exemple?
Alors, Jean Lassalle, oui, parce qu'il est bon dans les petits trucs.
Non, mais Edouard Baird, à 7h29, vous posez une question énorme, mais je crois extrêmement importante, qui est que on peut considérer que les réseaux sociaux, par le rythme dont vous avez parlé, moins d'une minute, c'est ce qu'il faut faire pour un message sur les réseaux sociaux pour aller vite et sur Internet, ça a une influence décisive sur l'organisation du débat, la manière d'argumenter, etc. Donc ça raccourcit beaucoup les cycles d'explications et il y a une espèce de plus grande résistance à des cycles plus longs. Il y a un autre effet qui est très important, c'est la polarisation du débat. On est pour, on est contre, vous êtes avec moi ou vous êtes contre moi. Alors ça, c'est un peu la logique de la guerre qu'on retrouve tout le temps dans la politique, mais sur les réseaux sociaux, c'est extraordinairement net. Vous êtes assigné à un camp et pas à un autre. Vous choisissez. Entre les deux, il n'y a que des traîtres ou oui. Des mous ou des tièdes. Ça n'intéresse pas et c'est méprisable. Donc il y a une tendance, je dirais, à l'hystérisation de l'échange qui est problématique puisque généralement la politique se solde par des compromis.
Merci Dominique Régnier. Vous vouliez rajouter quelque chose, Thomas ?
Non, je me demandais si ça crée une dynamique, les débats sur les réseaux sociaux, ou si simplement ça accompagnait les dynamiques. Est-ce qu'on arrive juste à mesurer ça aujourd'hui ?
En tout cas, ça dépend un peu des éléments, mais ça accompagne des dynamiques, oui, ça fait partie de ce qu'il faut mobiliser. Ça peut aussi créer des dynamiques à partir de faits ou d'informations ou d'analyses qui naissent et qui sont propagées. Et n'oublions pas, il faut le dire ici, que les réseaux sociaux ont une influence réelle et très forte sur les médias classiques. Et donc, c'est aussi une clé d'entrée sur les médias classiques de passer par les réseaux sociaux. Les médias classiques, radio, télé, presse, ont une espèce de complexe d'infériorité à l'égard des réseaux sociaux, qui sont comme les médias jeunes ou modernes. Et donc, à l'égard de ça, bon, il y a une espèce de désir de leur ressembler, même si, en réalité, il y a une concurrence furieuse entre les deux.
Et de s'en inspirer, puisque dans le monde du spectacle, on sait très bien qu'aujourd'hui, si on veut commencer à être acteur, à écrire, il vaut mieux faire un petit un format court sur YouTube qui commence à avoir des vues et aller voir les chaînes ou aller voir les théâtres avec ça. C'est ce qui est une façon formidable aussi pour les gens de commencer. Merci, Dominique Régnier. C'est le journal de 7h31. C'est François Rollin, vous me disiez, c'est très ennuyeux dans les autres radios parce que le journal de 7h30, il y a un côté un tout petit peu martial, un peu 7h30. 7h31, c'est un charme.
Pire que martial, ringard.
Ringard, le mot est lancé.
Pour moi, la totalité des stations de radio, à l'exclusion de celle-ci, sont dans une ringardise.
Ringard, merci beaucoup.
Quel est le point commun entre les internes en médecine et les patrons d'auto-école? Eh bien, ils sont appelés à se mobiliser aujourd'hui. Les internes en médecine sont appelés à la grève pour réclamer l'allongement du temps de formation dans le cadre de la réforme du troisième cycle des études médicales. Quant aux patrons d'auto-école, ils sont appelés à se mobiliser contre la dématérialisation de l'inscription au permis de conduire, symbole de l'ubérisation du secteur, selon eux. Plusieurs opérations escargots sont programmées, notamment à Paris, mais dans plein d'autres villes, grandes villes. Et puis en Guyane, après un mois de conflit, la mobilisation se poursuit. Les Guyanais ont même décidé de refermer les barrages érigés, faute d'accord signé avec le gouvernement. J-5 avant le premier tour de l'élection présidentielle. Ce mardi va être marqué par une nouvelle initiative de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de la France Insoumise sera en meeting à Dijon et dans 6 autres villes en même temps. Montpellier, Grenoble, Nancy, Clermont-Ferrand, Nantes et au port. C'est sur l'île de la Réunion grâce à ses hologrammes. Jean-Luc Mélenchon qui s'est offert une traversée de l'île de France sur la péniche Insoumise hier pendant que le candidat...
Pardon, arrêtez avec la péniche Insoumise, je vous en supplie.
Ça lui a permis d'organiser une dizaine de meetings quand même.
Oui, pas trouver la péniche, ne répétez pas le mot insoumis, alors trouver un adjectif pour les
c'est
autres
vrai.
Candidats
c'est
aussi.
Parce qu'elle s'appelle comme ça, ils l'ont appelé comme ça, c'est leur, mais effectivement c'est leur langage Picardie, de campagne, c'est
l'homme
juste.
Du Picardie.
L'homme du Picardie.
Et pendant que le candidat de la France Insoumise, pour le coup là c'est juste, était donc sur les canaux parisiens, Emmanuel Macron lui était à Bercy pour son plus grand meeting de campagne, 20 000 personnes, 20 000 partisans.
Mais alors là,
pour,
donc ça serait la France Soumise contre la France Insoumise.
Ah,
je sens de la manipulation.
J'ai pas dit ça.
Mais vous savez, il y a un plaisir à la soumission, on en parlera juste après avec François Rollin.
Emmanuel Macron a défendu une France, je cite, ouverte, confiante et conquérante à laquelle il veut rendre son optimisme. Toujours à Paris, Marine Le Pen donnait un meeting au Zénith. Des heurts ont opposé des militants anti-FN au CRS à proximité du Zénith. Tandis que, à l'intérieur du Zénith, deux femmes ont tenté de perturber le meeting de la candidate de l'extrême droite, dont une qui a réussi quand même à s'approcher très près de Marine Le Pen, hein, à 2 mètres. Tout au plus, les deux militantes ont été expulsées manu militari. François Fillon, pour sa part, n'exclut pas la participation à son éventuel gouvernement de l'association Sens Commun, émanation de la Manif pour tous. Au moins 2000 personnes sont descendus dans les rues d'Istanbul hier soir hein, pour contester le résultat du référendum sur l'extension des pouvoirs du président Recep Tayyip Erdogan. Le oui l'a emporté avec 51,4% des voix. C'est l'une des plus importantes grèves de la faim des prisonniers palestiniens que l'on ait vu depuis 20 ans. Il serait plus de 1000 selon l'administration pénitentiaire israélienne, 1500 selon les associations de défense des prisonniers, à avoir entamé ce mouvement collectif hier. Objectif de cette grève de la faim illimitée, dénoncer les conditions de détention des prisonniers palestiniens incarcérés en Israël. Environ 45% des quelques 200 sites naturels classés au patrimoine mondial de l'UNESCO sont victimes de braconnage ou d'exploitation forestière illégale. C'est le principal constat d'un rapport de l'UNESCO rendu public aujourd'hui. La rencontre de Ligue 1 entre le Sporting Club de Bastia et l'Olympique Lyonnais a été arrêtée dimanche dernier. Vous avez peut-être suivi cette affaire. Après de graves échauffourées entre supporters corses et joueurs rodaniens, les deux gardiens de but d'ailleurs de Lyon ont porté plainte. Déjà condamné à 3 reprises cette saison pour des incidents provoqués par certains de ses supporters, le club Bastia encourt de lourdes sanctions qui pourraient être prononcées dès cette semaine. Et puis la Ligue 1 française, ce soir, le PSG est attendu sur le terrain de Metz. Il s'agit d'un match en retard de la 31e journée.
La France soumise présente Atmen Khelif. Atmen Khelif.
Bonjour.
Atmen Khelif, vous avez fait le choix de la soumission.
Oui.
Vous soumettre, accepter l'autorité de l'autre.
Oui.
C'est un plaisir aussi.
Oui.
Face à vous, un soumetteur, François Rollin.
Oui,
François,
je suis. Bonjour. Je suis le gifleur d'Atmen.
Alors, comment c'est choisi le gifleur et le giflé? Est-ce le giflé qui choisit le gifleur?
J'ai pas eu le choix, moi.
Non. C'est plutôt le gifleur qui choisit le giflé, mais c'est avant tout une question de disponibilité, parce que le gifleur doit être là, à proximité de son giflé, 24 heures sur 24.
Alors, il y a le gifleur et le giflé, il y a le coup de pied oculaire et le coup de pied oculé. Il y a beaucoup aussi de ce qui donne, celui qui reçoit. Et je crois que c'est beaucoup basé, cette France soumise, sur l'échange.
Oui, l'échange dans le sens de l'échange à sens unique, c'est-à-dire que moi je ne reçois rien d'Atmen, par exemple,
mon
giflet du moment. Bien lui, par contre, s'en prend une à peu près toutes les 20 secondes. Oui.
Vous donnez, il prend.
Oui, voilà.
Beaucoup trop. Même.
Hein?
Beaucoup trop.
Mais dis donc.
Non, Atmen, dis donc.
Atmen, qu'est-ce qui se passe? Ah non, mais il ne faut pas faire ça.
Non, mais c'est à sens unique.
Non, dis donc.
Attention
pour ce petit malentendu. On part dans la rue avec Jacques souvent.
Là, on arrive dans quel côté, Myriam?
Bonjour, on arrive du côté de... Ah, attendez, là, on est boulevard Saint-Germain.
Ça va, vous voulez vous arrêter ou vous conduisez comme ça?
Non, ça va, je conduis, j'ai le GPS, c'est bon.
Non, mais je veux dire, on est en train de se parler quand même.
Oui, mais je peux faire plusieurs choses à la fois.
Vous avez remarqué. Mais Myriam, les produits à ongles, là, je vous ai rencontré comme ça, vous étiez en train de vous faire les ongles sur le tableau de bord de la voiture.
Exactement, oui. J'optimise mon temps de transport.
Bonjour Myriam.
Bonjour.
Ce rapport entre beauté et transport, c'est une chose importante dans la vie. Alors, les ongles dans la voiture, qu'est-ce qu'on peut faire dans les transports en commun qui...
Alors, dans les transports en commun, non. On fait pas ses ongles dans les transports en commun parce qu'on est avec du monde. Par
voilà,
contre,
le regard.
Dans ma voiture, c'est un espace privé. Donc, peux faire les ongles.
Alors, souvent, au feu, on voit des gens, plus des dames d'ailleurs, qui se remettent du rouge à lèvres dans le petit rétroviseur, mais les ongles, je n'avais jamais vu. Comment pratiquez-vous la...
Ah non, mais les ongles, c'est à l'arrêt, hein, je vous rappelle.
Ah, les ongles à l'arrêt, le rouge à lèvres en mouvement, je comprends. Et là, on est boulevard Saint-Germain à Paris, le quartier des ministères. Est-ce que vous sentez une effervescence particulière dans les ministères ce matin?
Non, là, on n'a pas vu grand-chose.
Il n'y a pas de menace précise sur les ministères en France ce matin?
Pas visible, en tous les cas.
En plus, maintenant, on a évolué, on est au-dessus du pont. Moi, excusez-moi, Edouard, j'avais une question. Pourquoi, quand vous vous mettez du mascara, vous gardez la bouche ouverte toujours, les femmes?
ça doit être pour une question de, je sais pas, de concentration.
Myriam, vous n'avez pas eu le temps matin chez vous? Vous n'avez pas assez de temps chez vous? Vous n'aimez pas vous maquiller chez vous?
Non, j'ai pas le temps.
On n'a pas eu le temps.
Non.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? À la maison, on a le temps. Pourquoi? On a l'hygiène de base, la douche
Oui, je vous rassure.
On est sur une douche, voilà. Ou sur un bain, Myriam?
On est sur une douche, on fait efficace, d'accord?
Efficace, on s'habille. Peut-être les cheveux à la maison?
Oui, tout à fait, non, mais tout à fait, je vous rassure.
On est sur cheveu...
Détails. On est sur les finitions.
On est sur les finitions, toutes les extrémités, les doigts, la bouche, les yeux, le nez, les oreilles. Non, il n'y a pas d'esthétique particulière des oreilles?
Ça,
il
n'y
a
c'est
pas de maquillage des oreilles.
Non, ça n'existe pas.
Donc là, vous êtes prête à affronter le monde extérieur? Vous êtes fière de vous, contente de...
On vient de piler au feu. C'était...
Orange, je m'arrête.
Des petits conseils beauté ce matin, Myriam?
Ah, petit conseil beauté. Alors là, vous me prenez un petit peu au dépourvu. Naturel. Pas trop, voilà. Pas
les ongles. De... Vous emmenez Jack souvent où il est monté dans votre voiture comme ça?
Oh ben voilà, il a vu que j'étais très occupée à faire mes ongles en écoutant la radio. Et donc, il s'est dit, tiens, on va faire un beau trajet ensemble.
En fait, vous avez votre fille derrière qui va à l'école d'ostéopathie, c'est Claire. Bonjour Claire. Donc Claire va à l'école d'ostéopathie, vous revenez de banlieue, c'est ça?
Voilà, on fait notre petit rituel, j'emmène ma fille à l'école, et après moi je vais bosser. Moi, et tout... entre-temps, j'ai fait mes ongles, voilà, quand j'arrive, je suis prête à travailler.
Tout
et...
ça me va, moi, François, oui, ouais, Thomas.
Non, nous, on arrive vers chez vous, là, on arrive à Bastille, là.
Eh ben, venez.
Moi, j'ai l'impression qu'il a trouvé une nouvelle famille, notre ami Jack.
Oui, hein. Il est parti avec Myriam et Claire, les ongles.
Je vais porter les courses.
L'ostéopathie. Allons-y, vas-y, que je t'embrouille. À tout de suite.
7h, 9h, plus près de toi.
7h, 9h, Édouard Baird.
Plus près de toi.
Plus près de toi. Une émission extrêmement racoleuse.
Excusez-moi, Edouard, parce que le morceau.
J'étais pas là pendant le morceau, tu me servais un croissant.
Oui.
C'est que un instru?
C'est que un instru.
Mais dis donc, enfin, c'est pas. C'est, les gens sont furieux.
C'est une très longue intro. Hein, très, très longue intro. C'est un morceau pour chanter chez soi.
Mais oui, mais parce que si quelqu'un qui ne souhaiterait pas chanter chez lui, ne pouvait pas imposer ça à l'auditeur, Armel.
Franck Pourcel, c'était que le.
Comment?
Franck Pourcel à la trompette, vous vous rappelez?
Non,
mais... Ta-da-da-ta-ta, c'était que. Non, bon, c'est pas du tout le genre de la maison, apparemment.
Je sais plus du tout ce qui se passe. François, êtes-vous prêt pour l'animal du mardi?
Ouais, j'attends mon générique.
Oui.
Je suis dans les starting blocks.
L'animal du mardi.
Alors, charade, mon premier est un petit poisson, mon second est un arbre fruitier, mon tout est un roi de France, en choix pommier. Alors, oui, bien sûr, cette charade est à mourir de rire, et nous, tout naturellement, nous rions, à gorge déployée. Et au passage, nous avons, certes involontairement, nous avons profondément blessé un être vivant, et c'est notre animal du mardi, l'anchois.
L'anchois, oui.
Alors pour commencer, l'anchois en a assez d'être qualifié de petit poisson, simplement parce qu'il mesure de 10 à 12 centimètres. Non, dit l'anchois, non, il n'y a pas de petit poisson. La taille physique n'est qu'un critère parmi d'autres, et tous les poissons doivent être traités sur un pied d'égalité, même s'ils n'ont pas de pied. Les soi-disant gros poissons, poursuit l'anchois, occupent le devant de la scène et accaparent les feux des projecteurs, alors que beaucoup d'entre eux, comme le requin, le turbo ou le cabillaud, ne sont d'aucune utilité dans les charades sur les rois de France. Ça fait bien longtemps que l'anchois est victime de mauvais traitements. Il se retrouve au gré de la fantaisie des hommes roulé grossièrement autour d'une capre ou allongé servilement dans l'huile dans un espace confiné quand il n'est pas carrément entassé dans la saumure comme un vulgaire cornichon. Cette situation, Edouard, n'a que trop duré et c'est pourquoi je conclus ce matin en disant « À l'heure du choix, votez Mélenchois ».
Non, c'est très grave. Vous êtes obligé, François, hélas. Vous savez qu'on est une radio, on ne peut pas. Il faut que vous il faut aussi qu'il y ait Macrochois, oui. Fille en choix, et les. Maman choix. Vous êtes obligé de.
Mélenchon, Mélamont, Mélamont.
Vous trouviez des mauvais jeux de mots sur tous les noms des hommes politiques. Ce sera votre petit devoir pendant le morceau suivant.
Ouais.
Et mauvais jeu de mots sur tous les hommes politiques. Très belle version arabe de Harley Davidson de Gainsbourg pour Bardot. Qui a réalisé ça, François?
Alors, c'est un ami de 40 ans, c'est Marc Beaco, ou dit Marco Beaco, qui est un des grands spécialistes internationaux de la voix. Alors, on l'appelle maintenant le sorcier. Il y a encore eu récemment des grands articles sur lui parce qu'il a été le coach vocal de François Hollande. Il devait être celui d'Hillary Clinton, et puis ça s'est juste mal goupillé. Mais c'est un immense spécialiste, et en même temps des médecines douces, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de piqûres, il n'est pas médecin, tout ça. C'est juste psychologiquement, enfin bref, c'est un magicien.
À placer sa voix, pas à chanter.
À la placer, et à la placer avec endurance, pour pouvoir l'utiliser beaucoup. Donc effectivement, celui qui dit trois mots par jour n'a pas beaucoup besoin du sorcier Marc Beaco, mais celui qui utilise sa voix comme un outil, tous les tribuns, bien sûr. Et puis, parallèlement, Marco continue ses travaux dans la musique. Et là, il a voulu faire quelque chose, il m'a dit, je ne sais plus quoi, autour de la libération de la femme arabe, voilà, qui a le droit aussi de chanter ce que chantait Bardot.
Merci, François Rollin.
Mesdames, messieurs, prenez garde à la poésie.
Un enfant,
un poème.
Alors, Marion, présente-nous ta sœur.
Elle s'appelle Jeanne, elle a 7 ans, elle est en CE1.
Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'elle? Qu'est-ce qu'elle aime faire? Est-ce que vous entendez bien à la maison?
Ça va.
Les disputes, c'est quoi, par exemple? C'est sur quoi?
Sur
des affaires, par exemple, si vous prenez les affaires l'une l'autre, ou des trucs comme ça?
Non.
Non, parce que vous n'avez pas la même taille, donc vous voulez pas tellement les chaussettes, non?
Non.
Donc ça se passe plutôt bien?
Oui.
Tu es d'accord, Jeanne, ou pas?
Oui.
Jeanne, c'est quoi ton poème?
Mon hiver.
Ton hiver? Tu aimes bien l'hiver, toi, ou pas? Quelle est ta saison préférée? Ce suspense insoutenable. Jeanne va-t-elle nous dire sa saison
l'hiver.
Préférée? C'est l'hiver. Eh bien, ça tombe très bien. C'est ton poème. On va l'écouter, alors.
Mon hiver est beau et parfumé de cendres, de feu de cheminée, d'encens et de lavande. Pour tous mes enrhumés, mon hiver est beau de blanc et de neige, de givre sur les arbres, de palais transparent. Mon hiver, je l'entends craquer, grincer dans les arbres, craquer sous mes pas, souffler dans les ruelles. Je colle mon nez à la vitre, mon hiver est buvé à nouveau, il m'invite à me recroqueviller. Véronique Leray.
C'est Véronique Leray qui l'a fait ce poème. C'est un joli poème?
Oui.
Tu la connais, Véronique Leray?
Non.
François, vous la connaissiez, je crois?
Très peu. Et surtout son œuvre, l'ensemble de ses poèmes.
Saison.
L'hiver, l'été, oui.
Non, elle a fait le printemps, elle n'a pas fait l'été, parce qu'elle n'était pas disponible, elle était en vacances. Mais merci les filles, vous êtes en vacances encore ou c'est la rentrée aujourd'hui? Vous êtes contente de la rentrée?
Oui. Oui.
Pourquoi ça vous fait plaisir de rentrer à l'école?
Parce qu'on va revoir nos professeurs et on va pouvoir apprendre d'autres choses.
Bah dis donc, je suis pâté là. dis donc. Bon bah bravo les filles, vous êtes l'honneur de ce pays.
Vive l'école de la République.
À bientôt.
7h-9h, plus près de toi.
C'est bon.
Plus près de toi.
7h-9h.
Édouard Baird.
Je passe une matinée. Mon Dieu.
Faut plus que tu parles à Nicolas. Faut plus que tu parles à Nicolas.
Elle va pas le répéter des heures.
Ça a l'air important. C'est
pourquoi
elle
répète pendant des heures
passe.
Cette phrase-là?
Ça a l'air important.
Bon, hein?
Mais quel Nicolas?
Et pourquoi c'est jamais ouvert le micro d'Adèle?
Mais pourquoi c'est jamais ouvert le micro? Elle dit, il faut qu'on en parle à Nicolas. Nicolas?
C'est qui cette Vetti qui chante? Moi je ne connaissais pas, tout le monde me fait les gros yeux.
Moi non plus, je ne connaissais pas.
Bon bah vous non plus, Thomas oui.
C'est
vous,
pas
oui.
Mes yeux, non. Pardon.
Vous connaissiez, vous m'avez dit Vetti c'est le patrimoine français.
Non, c'est quelqu'un d'autre a dit ça.
Mais moi, qui
pas dit ça. C'est Yvette bon. À l'envers je crois.
Alors on est à Montpellier là, allô?
Oui, allô?
On est chez Marius et Kamel, nos correspondants montpelliérains. Bonjour les gars.
Bonjour Edouard, ça va?
De chez MK2 Bio, hein, c'est cette marque, c'est
ça,
ces grossistes en légumes bio du mine de Montpellier. Ça. Dites-moi, vous savez qu'on arrive jeudi matin à faire l'émission en direct. Est-ce qu'il y a une sorte d'effervescence à Montpellier à cette année?
Ouais, il paraît, ouais.
Non mais il y a une excitation, on n'a parlé que de ça ce week-end ou pas?
Que de ça ce week-end, on a parlé de toi sur toutes les autres radios.
Mais pas moi, l'émission. Dites-moi, vous étiez à la plage un peu ce week-end ou pas?
Non, ce week-end, avec mon associé, on a fait la Feria d'Arles.
Ah d'accord, vous êtes allé à la Feria d'Arles, vous vous êtes amusé?
Oui, c'était sympa, il a fait très beau.
D'accord, et vous avez l'impression que tout Montpellier était sur les plages déjà? Est-ce que c'est l'ouverture de la saison officielle?
Ça a été l'ouverture, on va dire, à partir de la semaine dernière, parce que c'était les débuts des vacances. Et il y a plein d'établissements au bord de la mer qu'on commence à ouvrir dans les paillotes. Donc ça a permis de créer l'effervescence au bord de l'eau.
Merci. Oui.
Et ce week-end, il a fait très beau, donc apparemment, il y a eu du monde à la plage.
Et dis-moi, alors, on est à la Panacée jeudi à Montpellier à 7h. C'est, oui. c'est connu là-bas, la Panacée?
Oui, c'est un peu un centre culturel qui est connu sur Montpellier.
Il ne faut pas que ça t'inquiète. Moi, j'entendrais centre culturel, j'irai en face. Mais c'est peut-être pas si inquiétant que ça. On n'est pas obligé de faire de la culture non plus.
Non, pas obligé. On y va aussi pour déconner parce qu'il y a aussi un bar sympathique au milieu d'une cour.
Bah alors, on sera plutôt là, nous. Donc, à 7h, on est là. Si vous êtes à Montpellier, venez nous voir à la Panacée. On sera en direct de 7h à 9h. Voilà. Salut.
Okay.
Salut à toi.
Au revoir.
Et un panier de légumes. Salut Kamel. Qui l'amène à panier de
pourquoi il n'est pas ouvert son micro là.
Pourquoi il n'est pas ouvert
bon, allez, c'est pas possible. Le journal de 8
heures. Il est ouvert son micro.
Salut Kamel.
Les Guyanais ne lâchent rien. Ils ont décidé hier de remettre en place les barrages routiers qu'ils avaient levés à l'occasion du week-end de Pâques. Un nouveau protocole d'accord élaboré par le collectif Pou La Guyane décollée pour que la Guyane décolle a été transmis au gouvernement. Pas de barrage pour les internes en médecine, mais des manifestations. Ils sont appelés à la grève pour réclamer l'allongement du temps de formation dans le cadre de la réforme du troisième cycle des études médicales. Journée d'action également ce mardi des patrons d'auto-école. Ils sont appelés à se mobiliser contre la dématérialisation de l'inscription au permis de conduire, symbole de l'ubérisation du secteur. Selon eux, plusieurs opérations escargots sont programmées. C'était le plus gros meeting de sa campagne. Emmanuel Macron a rassemblé 20 000 de ses partisans hier à Bercy, à Paris donc. De son côté, toujours dans la capitale, Marine Le Pen était au Zénith. Un meeting très axé sur l'immigration et perturbé par deux femmes, tandis que des militants anti-FN bataillaient avec les CRS à l'extérieur. Ce mardi va être marqué par une nouvelle initiative de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de la France Insoumise sera en meeting à Dijon et dans 6 autres villes en même temps. Montpellier, Grenoble, Nancy, Clermont-Ferrand, Nantes et au port. Le port, c'est sur l'île de la Réunion. Il va être présent partout grâce à ses hologrammes. Ce matin, Nicolas Dupont-Aignan, candidat de Debout la France, que je sais que ça te tient à cœur, Edouard, était au marché de Rungis. Et il y était en même temps qu'Emmanuel Macron ce matin. Je ne sais pas si les deux hommes se sont croisés, mais en tout cas, ils étaient tous les deux aux aurores. Exactement, au moment de Noël.
C'est bien Rungis.
C'est vrai, on y va chaque année d'ailleurs.
Alors Rungis, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qui alimente Paris, Rungis. C'est le grand marché grossiste en tout.
Gringis, joie du fruit, plaisir du légume, enchantement de la viande, bonheur des fleurs, joie d'offrir, plaisir de recevoir. Un Gringis, il faut acheter par cagette entière, par camion, par container, par tonnage. Pas ici de deux escargots, une tranche de jambon et l'addition. Ah non, ici c'est Gringis, mon grand. Ici, il t'en faut pour t'en faire péter la sous-ventrière. À tout de suite, retour dans le journal.
Au moins 2000 personnes sont descendues dans les rues à Istanbul hier soir pour contester le résultat du référendum sur l'extension des pouvoirs du président Erdogan. Le oui l'a emporté avec 51,4% des voix. Le président turc laisse entendre qu'il pourrait organiser deux autres référendums. Le premier sur la peine de mort et le deuxième sur la poursuite ou non des négociations d'adhésion de la Turquie à l'Europe. C'est l'une des plus importantes grèves de la faim de prisonniers palestiniens que l'on ait vu depuis plus de 20 ans. Il serait plus de 1000 selon l'administration pénitentiaire israélienne, 1500 selon les associations de défense des prisonniers à avoir entamé ce mouvement collectif hier. Objectif, dénoncer les conditions de détention des prisonniers palestiniens incarcérés en Israël. On en reparlera samedi prochain, jour de la Terre. Dans plus de 500 villes dans le monde, des chercheurs et des citoyens vont marcher pour défendre les sciences, une mobilisation planétaire pour défendre la recherche et la démarche scientifique basée sur des faits vérifiés.
Vive les sciences et à bas les non-sciences.
Voilà, une démarche scientifique basée sur des faits vérifiés et la rationalité. Le mouvement est parti spontanément de discussions en ligne aux États-Unis quelques jours après l'investiture de Donald Trump. Et puisqu'on est aux États-Unis, on y reste un instant. Selon une étude du centre médical Langone de l'université de New York.
Mettez-le en espace quand on est aux États-Unis. Faisons l'ambiance sonore, nous. Hey, wow, what the fuck, what are you? Vas-y, allez-y.
Et selon une étude de l'université de New York, les maladies mentales sont en hausse aux États-Unis, ainsi que les suicides. Et dans le même temps, l'accès aux soins psychiatriques se détériore. Il serait plus de 8,3 millions d'Américains à souffrir de troubles psychologiques importants. Environ 45% des quelques 200 sites naturels classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, et on va terminer là-dessus, sont victimes de braconnage ou d'exploitation forestière illégale. C'est le principal constat d'un rapport de l'UNESCO qui a été rendu public ce matin.
Bonjour, qui veut s'inscrire au concours de lancer de chaises en studio? Qui vient? Attention, viens Thierry. Alors voilà. Alors,
c'est le Thierry. Tant que je fais pas la chaise, moi
c'est ça. C'est assez simple. On prend une chaise, vous voyez là.
Comme ça.
Take a chair en anglais. Take a chair.
Non, en même temps.
Et en bois.
Allez-y.
Yes. Another chair.
Là-bas, allez-y.
Now. Against the wall. Voilà. A chair against the wall. Thierry is winning. He's winning with. Throw the chair.
Lancer la console aussi.
Attention. Ah, non, pas non, la console. Pas la console.
Now, Atman, another chair. Yes.
Le jury.
And the Atman chair is winning. Atman chair.
Ça fait un bien tout de suite avec Jacques Souvent dans la rue.
Moi, je voudrais un autre horaire que 8 heures. Je voudrais un 7h55 ou un 8h05. Parce que je mets toujours les gens en retard sur la 1, Caroline.
Ouais, je vais être complètement.
Allez, Caroline, on fonce. On va vers où, là, Caroline?
C'est un scandale. Là, je suis à l'Opéra de Paris.
Caroline, c'est formidable. Le concert est à 8h07 aujourd'hui. C'est cette nouvelle idée du ministère de la Culture, mettre des concerts et de l'opéra à 8h le matin. Est-ce que vous pensez que ça permet à un autre public d'y accéder, de baisser les tarifs?
Il faudrait, ça peut être une idée.
Caroline, quel est ce que vous avez prononcé? Est-ce un hommage à certains animaux ou est-ce que c'est un petit truc un peu tendre, susurré à l'oreille d'un amant potentiel?
Oui, on va partir sur la chose tendre. Hein.
On va partir là-dessus, puis je vous en mettrai deux. Caroline, qu'est-ce que vous allez faire à l'Opéra de Paris? Vous allez chanter, écouter, rien de tout ça?
Pas du tout, on va construire les décors à l'atelier tapisserie.
Oh, c'est joli. Et vous allez tapisser, vous allez broder, vous allez dessiner, vous allez coudre?
On va tapisser, on va coudre, voilà.
Vous travaillez sur quel spectacle?
Là, on est sur Cendrillon, on est sur plein de choses. On a fini Le Songe, voilà. Oh. Plein de belles productions.
C'est joli, vous vous rendez compte de votre métier, vous dites « Ah, ce matin, j'ai fini Le Songe et je suis sur Cendrillon ».
C'est super, mais je suis en retard à cause de vous.
Mais bien sûr, mais vous direz que c'est notre faute. Il faut... C'est bien d'être en retard parce que ça crée de du dialogue avec les gens avec qui vous travaillez. Si vous arrivez à l'heure, il n'y a rien à raconter.
C'est vrai, je vais leur dire ça.
Bien entendu.
Excellente idée, je ferai ça tous les matins.
Si vous arrivez en avance, vous êtes seul, il n'y a personne à qui parler. À l'heure, il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de vie. Puis alors en retard, alors là, ça commence. Les gens disent que vous avez une vie mystérieuse, Caroline, c'est vrai.
Mais retrouvons-nous tous les matins ici, alors.
Oui, où vous voulez.
On peut faire ça.
Bien entendu, avec plaisir. Bon décor, Caroline. Hein.
Merci beaucoup.
Arriver en retard. Rejoindre les autres alors qu'ils sont déjà là. Ne pas répondre à leurs questions, être évasif, sous-entendre qu'on a une vie secrète, une vie cachée qui vous maintient ailleurs, et puis une fois arrivé, lancer des petits regards pleins de sous-entendus, avoir des gestes un peu furtifs. Double vie, triple vie. Je suis en retard dans cette vie-là, mais dans une autre, je suis à l'heure. À tout de suite.
Plus près de toi,
7h, 9h.
2h d'émission, mais c'est beaucoup trop court.
Dites-moi, Atmen, c'est vous qui avez eu l'idée du titre là de dans le monde de sur Brigitte Macron, l'intitulé Brigitte Macron, compagne présidentielle? C'est vous qui avez eu l'idée de ce jeu de mots?
Non, mais je le trouve pas mal.
D'accord.
Il préfigure d'un... Quelle va être peut-être la première dame de France?
D'accord, très, voilà. Bien. Parce que vous avez regardé Macron à la télévision, ça vous a...
Ouais, dès qu'on m'a dit, viens, on va voir Macron là-bas. J'ai dit, mais non, c'est gratos à la télé, sur BFM. Donc je me suis tapé dimanche.
Vous êtes déjà allé à des meetings électoraux, sinon?
François Hollande, il y a...
C'est prenant, ça fait quoi?
C'est long.
C'est long.
C'est long, et puis il faut attendre longtemps que le...
À la télé, c'est mieux, hein, c'est ce que vous dites en général,
voilà,
dans la vie.
À la télé, c'est comme le foot, il y a les ralentis, il y a les replays, alors que...
Alors c'était comment Macron à la télévision?
Je l'ai trouvé très en forme, à l'aise, faisant des petits monologues, avec des Marseillaises improvisées qui partaient comme ça. D'ailleurs, des trucs assez drôles comme Macron, qu'un sang impur, des gens jeux de mots un peu cons comme ça.
C'est vrai.
Et puis, il a commencé à parler de Diderot, de lettres à des maîtresses. Alors les gens surcommentaient en disant, Diderot, oh... avait une maîtresse. Oh,
c'était un public pour montrer l'adhésion dès qu'il dit quelque chose. Hier soir, bravo.
Oh, voilà, c'est ça.
J'étais ouais.
C'était très très ouais, c'était un beau spectacle. Mais bon.
D'accord.
Sans
D'accord, donc une analyse, ça s'arrête là. Vous m'aviez déjà envie d'un truc sur Macron. C'était juste ça.
Non, mais
ça.
Je voulais juste parler de ce qui se passe dans Paris sur les affiches électorales.
Oui.
Les Parisiens sont très farceurs et ils aiment écrire. Les Français aiment écrire. Donc sur les affiches, il y a beaucoup de fachos sur Marine. De escrocs, mais surtout il y a les détournements des slogans. Par exemple, Fillon, il a écrit une volonté pour la France. Les gens ont levé volonté, ils ont mis un vol pour la France. Je trouve
mais
ça...
c'est beaucoup plus attaqué que les autres, les affiches de. Moi, je me suis baladé aussi en Bourgogne ce week-end. Mmh. Les affiches de Fillon sont plus attaquées que les autres affiches.
Ouais. Ou alors, par exemple, comme il s'appelle le Cheminade, il a écrit Libérons-nous de l'occupation financière. Il a écrit Libérons-nous de l'occupation, quoi. Et ça m'a, bon, ça m'a fait rire.
C'est
quoi,
facétieux.
Voilà.
C'est facétieux.
Non, mais je trouve ça. Non, mais
vous en avez remarqué d'autres, oui.
Non. Mais c'est vrai, ça fait la petite blague au coin de la rue. On peut le prendre comme ça aussi, finalement. C'est une sorte
normalement,
une manière
sacré,
poétique.
On n'a pas le droit de s'en prendre.
Eh oui, c'est interdit par.
Non, mais c'est surtout que c'est dans les écoles, devant les écoles. Quand les petits sortent, ils voient ces 4 ou 5 affiches horribles de mecs comme ça qui les regardent. Voilà.
On appelait ça l'éducation civique.
Alors, il n'y a que Jean Lassalle qui ne regarde pas l'objectif. Regarde sur le côté, il a la ligne d'horizon.
Oui.
On est avec Bouchta à Marseille. Bonjour Bouchta.
Bonjour mon poussin, ça va?
Bouchta, tu sais qu'on débarque à Marseille jeudi, hein. On a dit qu'on était à Montpellier mercredi.
Vendredi.
Oh écoutez, si c'est pour contredire tout le temps.
Ah non, mais Marseille c'est le vendredi.
Vendredi, on est à la Criée, donc venez nombreux si vous êtes autour de Marseille ou si vous pouvez vous déplacer pour ça. On sera en direct de 7h à 9h à la Criée, sur le vieux port au théâtre de la Criée. Au bar, hein, je vous rassure. Comment ça va, Bouchta?
Eh ben, très bien, c'est beau, là, il y avait la fête de Pâques, là, les œufs de Pâques.
Oui.
Eh ben, la tradition, on touche les œufs pendant le week-end.
Oui, c'est vrai. Oui.
Voilà, voilà.
Oui,
il y a l'anniversaire de mon bébé aussi.
Oui.
C'est son anniversaire, il y a le 17 avril.
Ton bébé?
Mon fils, j'ai un fils, il a 6 ans le 17 avril.
Tu lui as fait, comment ça a été fêté ça?
J'ai fait un bon couscous. C'est moi, je suis. C'est quand c'est son anniversaire, j'ai fait un bon couscous. J'ai donné un peu aux voisins. J'ai donné à un couple d'étrangers là, qui viennent du nord de la France, là, des jetés. Ils sont gentils. J'ai leur donné du couscous. J'ai donné à ceux qui sont venus du bled il n'y a pas très longtemps, mais c'est des Français, ils s'appellent la famille Chandol.
Oui,
les Chandol. Il y en a encore là-bas. Bon, bref. Et un peu couscous par-ci, par-là. J'ai acheté 40 euros de couscous, on en a mangé pour 60.
Mais tu n'as rien fait, tu l'as acheté tout fait?
Non, je l'ai fait moi, mon boutier. Moi, j'achète tout fait, tu m'as pris pour Maïté.
Mais qu'est-ce que tu mets dans ton couscous?
Alors, qu'est-ce que j'ai mis?
Pour 40 euros.
L'agneau Pascal, Blaise Pascal, là, le billet de 500 francs de l'époque.
Oui, et Pascal, alors, oui.
Alors, je suis parti à la boucherie, j'ai acheté l'agneau, j'ai acheté un poulet aussi fermier, la belle rouge.
Oui.
Il n'y avait pas beurre blanc rouge, j'ai pris la belle rouge.
Oui.
Et voilà. Et après, j'ai pris des bons légumes, c'est de saison. Là, j'ai pris des fèves.
Oui.
Je les ai fait à la vapeur avec un peu de vinaigre, de l'ail, du persil, la coriandre, et puis même, bien sûr, pour bien digérer, parce qu'après, ça te fait une bouteille de gaz.
Oui.
Voilà. Et après, ça, je les fais à part. Et les légumes, je les ai fait magnifiques, à la vapeur, un délice. En tout cas, il ne restait pas une goutte.
Bah évidemment, si tu en donnes à tout le quartier, il ne reste rien, oui.
Ouais, mais je te jure, j'avais. Tu sais, comme c'est l'anniversaire, il faut faire des dons. Que ça n'avait pas le mauvais oeil, mon petit. Il est tellement bon, en plus, peu cher. Alors, écoute, j'ai donné un peu par là, mais comme il y avait l'odeur, elle était tellement forte dans le quartier, tout le monde était au balcon comme des oiseaux à attendre la graine de couscous. Alors, quand ils m'ont vu, tu as fait le couscous, une assiette. Mon père, il a eu peur qu'il n'a pas eu pour lui. Il est venu vite à la fenêtre. Il m'a dit, la mienne. Je t'inquiète, je l'ai mis de côté. 85 ans, mon père, André, il a 18 ans, il lâche pas une graine de couscous. Voilà, mon beau.
Bon,
et vous, c'est quoi la papa?
Oh, ben non, ben moi j'étais en Bourgogne chez des amis. Non, mais voilà, on a caché les œufs pour les enfants, tu sais. Puis après, on a pris des tranquillités.
Ah, en fait, tu sais quoi, j'ai eu l'agréable surprise.
Oui.
Tu sais que dans le livre, j'ai parlé de Barbie.
Oui, il y a ton livre, hein, il faut acheter le livre de Bouchta qui s'appelle J'ai toujours rêvé d'être un homme.
Non, je voulais devenir un homme.
Ah, voilà, aux éditions L'Harmattan.
Toi, tu lis dans mon cerveau, toi. Je voulais toujours. Ça, c'est vrai. Ça, ça m'a matché.
Donc, qu'est-ce que
alors, écoute-moi.
Oui.
Dans le livre, je parle de Barbie, là, que je voulais en avoir, je n'ai jamais eu, bon, bref. Et sûrement quelqu'un dans le quartier, je crois que c'est bien sûr un voyou, il a lu le livre, j'ai reçu une livraison de la moitié d'un conteneur de Barbie.
C'est du tombé de camion?
On ne va pas trop parler de la radio. Il y a des... Mais en tout cas, ça a peut-être ma mère, je te contacte. J'ai même pas ouvert les coffrets. C'est des Barbie magnifiques, avec le cheval, les cheveux blancs. Aïe, 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 je suis trop content, mais je ne sais pas qui c'est. Il est venu, il m'a dit, tiens, je suis livré de Barbie. C'est pas le temps de Barbie.
Tu vois, il suffisait d'attendre. Ben écoute, joue bien avec tes Barbie et on se voit vendredi à Marseille.
De toute manière, tu en verras une, Inch'Allah. Je t'ai mis une de côté, mon poussin.
Merci infiniment.
Allez, à bientôt.
Salut,
hein.
Mon vieux.
Je t'attends, mon poussin. Ciao, ciao.
À bientôt. Ciao. Marie Missé, est-ce que vous êtes sur les... Est-ce que vous êtes prête?
Oui, je crois.
Je crois, vous, oui. J'ai l'impression aussi. Oui, alors vous avez droit à votre générique.
Qui c'est qui a dit qu'elle travaillait pas, qu'elle fait que lire le journal? La revue de presse de Marie Missé.
Bonjour.
Bonjour.
Une fois n'est pas coutume, comme dirait François Fillon, les journaux de toutes les mouvances sont d'accord. L'incertitude est totale. Pour la une du Figaro, les échos titrent un sprint final indécis comme jamais. Libé prend la relève avec un « vous faites quoi ?» suivi de la grande prise de tête. L'incertitude règne tellement qu'on n'est plus assez près et qu'en plus des indécis, le Parisien tente de faire voter le plus grand parti de France. J'ai nommé les abstentionnistes avec une une en forme d'avertissement. Lundi prochain, il sera trop tard. Les échos, eux, sont à la recherche du vote fantôme, jamais capté par les sondages. Existe-t-il vraiment? Pour vous dire à quel point les gens, comme les journaux, sont sur la brèche, prêts à basculer d'un moment à l'autre, il me semble que cette phrase glanée dans Libération est parfaite. Elle est à l'intérieur d'un article spécial « Inoxydable dîner de famille et embrouille politique ». C'est Sidonie qui témoigne. Des proches, sarkozystes en 2007, hésitent aujourd'hui entre Mélenchon et Macron. Et l'affirme sans sourciller, je ne comprends plus rien à mes amis, ni à la politique. Effectivement, il y a de quoi être confus. Des fillonistes déçus penchent pour La Salle, toujours dans Libé. Éric Dubois, 43 ans, commence même à se mettre une pression monstre. C'est tellement serré qu'il ne faut pas que je me loupe, d'où mon indécision. Et son vote tient à peu de choses. Si sa femme mélenchoniste le fait trop chier, il ne votera pas pour lui. Sinon peut-être que si. Et dans un moment de panique, si je ne trouve pas, je voterai utile. inutile, pardon, c'est-à-dire Jean Lassalle, moi, je vous prédis grosse montée de Jean Lassalle d'ici dimanche prochain. Et on dirait que plus le temps passe, plus les incertitudes grandissent, ce qui fait dire à Dominique Seud en tribune dans Les Échos, il est temps d'en finir. Ce temps suspendu commence à peser à tout le monde, car pendant ce temps-là, qu'on le croit ou non, bien le monde continue de tourner. Erdogan, relégué dans les pages centrales des journaux, a bien gagné son référendum pour les pleins pouvoirs, à l'arrache et dans des conditions discutables, selon l'opposition turque et l'Observatoire des Nations Unies. La Croix nous prévient qu'il a tout de suite déclaré qu'un référendum pour établir la peine de mort aurait lieu. C'est en une, il consomme ainsi son divorce avec l'Union européenne, puisque l'abolition de la peine de mort en 2004 faisait partie des préalables aux négociations pour rentrer dans l'UE. À Alep, un photographe dont la photo a fait le tour du monde s'est effondré au sol, un enfant mort à ses côtés. Libé a choisi de le montrer là où 20 minutes l'avait caché. Après l'explosion d'un convoi qui amenait des centaines de familles hors des zones de conflit en Syrie. En Corée du Sud, nous dit-on encore dans la Croix, on ne s'inquiète pas trop des manœuvres américaines, car c'est tous les ans, depuis 60 ans, que chaque année, il y a des montées de tensions irrésistibles entre les deux Corées, comme des montées de lait. Mais le New York Times, lui, s'inquiète de la doctrine de Donald Trump, qui est de ne pas avoir de doctrine jamais, ce qui fait que le pied ne peut pas être sûr, qu'on ne sait pas vraiment là où le poser. Alors j'ai commencé cette chronique en me disant « Eh oh, il a raison, le monsieur dans Les Échos, il est temps d'en finir avec cette incertitude, ce temps suspendu. » Mais au vu de ce qu'il se passe ici comme ailleurs, ce n'est pas le résultat de nos élections françaises qui mettra fin à ce temps suspendu au bord d'un je ne sais pas trop quoi, et on n'est pas vraiment sûr d'avoir envie qu'il reprenne sa course folle.
Merci Marie. Vous parliez de Jean Lassalle, mais c'est vrai qu'il y a eu, ça a eu un bienfait, ce truc de ce qu'on appelle les petits candidats, c'est que tout à coup il y a une parole libérée. C'est-à-dire qu'il y a une parole qui n'est plus entièrement dosée en disant attention, là je gagne un point ou deux. Les gens l'ont vu avec Poutou lors du débat. Et moi, je vois avec Jean Lassalle parfois, là tout à coup il y a Jean Lassalle qui a fait un clip, je ne sais pas si vous avez vu, où il dit si tu veux continuer à t'emmerder avec des gens qui de toute façon ne tiendront pas leurs promesses, vas-y, vote pour eux. Mais si tu veux vivre une aventure que tu pourras raconter à tes enfants et tes petits-enfants, viens avec moi. C'est beau quand même ça.
7h-9h plus près de toi.
Eva,
plus près de toi.
7h-9h.
Édouard Baird, 7h-9h. Oh, à mon avis, il ne fait pas ça pour rien.
Oui, François Rollin, je sais par des indiscrétions que François Asselineau vous aurait proposé le ministère de la Culture s'il était élu. Alors si je peux me permettre, ne changez rien à votre train de vie. Vous voyez ce que je veux dire ? N'anticipez pas. N'anticipez pas une possible victoire de votre candidat, vous voyez ?
Oh oui, merci du conseil, mais là on était surtout en train de bosser les questions culturelles avec François, oui.
Non, non, parce que je sais que vous avez déjà réservé un grand appartement sur Paris pour l'année prochaine. N'anticipez pas.
D'accord. C'est-à-dire que vous êtes en train de me dire que nous ne sommes pas certains de gagner.
Non, c'est pas ça. C'est que je crois qu'il faut vivre l'instant, qui est déjà formidable pour vous. Et puis après, vous verrez l'immobilier. On part tout de suite au théâtre de 10h, parce que ce soir, L'Oiseau Bleu se produit sur scène. L'Oiseau Bleu et Arnaud Aymar, EST. Excellent mot. L'Oiseau Bleu, bonjour.
Allô ? Oui, c'est L'Oiseau Bleu.
L'Oiseau Bleu.
Édouard ?
Oui. On est avec François, oui, Thomas, Atmel, les copains.
Comment ?
Tu n'es pas au théâtre de 10h ?
Pas encore, je suis en Espagne.
Ah bon ? Mais il faut...
Je suis en train de surveiller les flux migratoires des oiseaux.
Oui.
Et là, on remonte de la Tanzanie avec des martinets.
Tu voles ?
3000 martinets.
Tu voles en escadrille alors avec d'autres oiseaux ?
Oui, tout à fait, là, je suis en train de voler.
Donc là, il y a quoi ? Donc vous arrivez de Tanzanie, les martinets sont en ordre de vol, là, c'est en V ?
Eh ben, au départ, ils sont mis en V, puis au bout d'un moment, comme il y avait trop de monde, ils sont mis en H. Puis là, on est une espèce de meute de 300 000 personnes, c'est assez agréable. On vole tous ensemble, on est fatigué, on se distribue la nourriture, du plancton des airs.
Comment se passent les passages de frontières ?
Eh ben, c'est pas facile, c'est moi, justement, c'est ça, je suis chargé de tous les formulaires administratifs. Je cherche à les faire traverser. Surtout les pays en guerre, c'est pas évident à traverser. Donc on essaie de voler sans lumière, de se faire le plus discret possible.
Ça bavarde aussi présidentiel entre les oiseaux, j'imagine, un petit peu.
Pas trop au courant.
Pas trop.
Là, on revient de Tanzanie.
Ouais.
Donc là-bas, c'était plutôt éviter les gnous. C'était là. On n'est pas encore au courant. Enfin, j'essaie de les tenir au courant parce que.
Vous êtes en vol là ou vous êtes à l'arrêt sur la terre ferme ?
Là, effectivement, on est à l'arrêt. Oui, ça s'entend. Hein.
Oui, ça s'entend un peu. Vous m'auriez dit le contraire, je me serais dit on se fout de notre gueule.
On vient juste de traverser la Méditerranée. Donc voilà, on est en Espagne.
Est-ce qu'on aurait peut-être un message un peu de métaphore pour les êtres humains, dire que peut-être que les oiseaux sont plus libres, échappent à ce problème des douanes et à tout ce qui est un petit peu trop terre-à-terre.
Bah, justement, moi, en tant qu'oiseau bleu, pour sauver, si vous voulez, les animaux, je propose que les animaux puissent faire partie de tout le cycle économique. Donc peut-être, grâce à ces voyages, peut-être en profiter pour relancer l'économie africaine, ou alors remonter des diamants, ou remonter du, je sais pas, du stuc ou de l'uranium. Voilà, faire des espèces de contrats entre les hommes et les oiseaux pour que les oiseaux puissent rentrer dans l'économie mondiale.
Bon, mais ça, ce soir à 20h,
alors,
au théâtre de 10h, on pourra en discuter de tout ça, parce que là, je ne veux pas rentrer dans la polémique, mais oui, monter de l'uranium, moi, ça me... je n'ai pas confiance, donc on pourra en parler ce soir ou pas?
Bien sûr qu'on va en pouvoir.
D'accord.
Bien sûr, à 20h.
Un oiseau sur scène, c'est vraiment inattendu.
Oui, bien sûr.
Tu m'as l'air bien réveillé, toi. Tu m'as l'air bien réveillé.
Oui, je suis bien réveillé.
Tu vas me la remplir, ta salle du théâtre de 10h.
Je vais essayer. En fait. Là, c'est vrai que je ne suis pas bien réveillé.
À ce soir, l'oiseau bleu.
À ce soir.
20h. Le rappel des titres par Thierry Paret.
Premier tour de la présidentielle dimanche prochain. Nicolas Dupont-Aignan, le candidat du mouvement Debout la France, était au marché d'intérêt général de Rungis ce matin. Emmanuel Macron y était également, le candidat du mouvement En Marche. Il était à Bercy hier, Emmanuel Macron, à Paris, devant 20 000 partisans. C'était le plus gros meeting de sa campagne. De son côté, toujours dans la capitale, Marine Le Pen était au Zénith. Meeting très axé sur l'immigration, retour aux fondamentaux. Et meeting perturbé par deux FMN, tandis que les militants anti-FN bataillaient avec des CRS à l'extérieur du bâtiment. Ce mardi va être marqué par une nouvelle initiative de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de la France Insoumise sera en meeting à Dijon et dans 6 autres villes en même temps, grâce à des hologrammes. Les Guyanais qui ne lâchent rien, ils ont décidé hier de remettre en place les barrages routiers qu'ils avaient levés à l'occasion du week-end de Pâques. Un nouveau protocole d'accord élaboré par le collectif pour que la Guyane décolle a été transmis au gouvernement. Pas de barrage pour les internes en médecine, mais des manifestations. Ils sont appelés à la grève pour réclamer l'allongement du temps de formation dans le cadre de la réforme du 3e cycle des études médicales. Et puis journée d'action également ce mardi, des patrons d'auto-école, ils sont appelés à se mobiliser contre la dématérialisation de l'inscription au permis de conduire, symbole de l'ubérisation du secteur selon eux. Au moins 2000 personnes sont descendues dans les rues d'Istanbul hier soir pour contester le résultat du référendum sur l'extension des pouvoirs du président Erdogan. Le oui l'a emporté avec 51,4% des voix. Le président turc laisse entendre qu'il pourrait organiser 2 autres référendums, le premier sur la peine de mort et le deuxième sur la poursuite ou non des négociations d'adhésion de la Turquie à l'Europe. 29 morts, c'est le nouveau bilan, toujours provisoire, de l'effondrement d'un tas d'ordures de près de 100 mètres vendredi dernier au Sri Lanka. Plusieurs personnes restent portées disparues. Le gouvernement a promis de fermer cette décharge où s'entassent 23 millions de tonnes d'ordures. Environ 45% des quelques 200 sites naturels classés au patrimoine mondial de l'UNESCO sont victimes de braconnage ou d'exploitation forestière illégale. C'est le principal constat d'un rapport de l'UNESCO rendu public aujourd'hui. Le club de football de Bastia en cours de lourdes sanctions qui pourraient être prononcées dès cette semaine. Dimanche dernier, avant et pendant le match Bastia-Lyon, il y a eu de graves échauffourées entre supporters corses et joueurs lyonnais. Bastia a déjà été condamné à 3 reprise cette saison pour des incidents provoqués par certains de ses supporters. Et puis certains supporters messins et parisiens sont tout aussi réputés pour leur violence. Ce soir, en match en retard de la 31e journée de Ligue 1, le PSG est attendu sur le terrain de Metz.
Bon,
mais oui. Voilà. Alors François,
on appelle Jacques souvent ou pas?
Mais merci, on allait le faire.
Les typographes ont complètement disparu.
Aujourd'hui, oui, on travaille sur des presses digitales donc de toute dernière génération qui impriment en couleur, en blanc, en vernis, en fluo. Donc plus de typographes parce qu'il faudrait créer aujourd'hui les caractères. Donc voilà.
Toutes ces belles petites lettres en plomb, et c'est fini.
Oui, aujourd'hui, on les trouve chez les antiquaires, sur les brocantes.
C'est quoi exactement? Bonjour madame, typographe.
Bonjour.
C'est étrange, tout à coup, vous êtes face à quelqu'un et un autre dans les oreilles.
Exactement, donc un typographe, c'est quelqu'un qui réalise des ouvrages grâce à des caractères mobiles en plomb qui aujourd'hui sont créés grâce à des fichiers, des documents PDF. Donc voilà, tout évolue, tout est de plus en plus rapide.
Nous allons perdre beaucoup des jolis mots de la typographie, les hauts de casse, les bas de casse.
Bravo, magnifique.
Ça, c'est voilà. C'est quoi
bon vocabulaire.
Les linotypistes. Moi, j'ai été amoureux d'un linotypiste.
Ah, très bien, ouais, très ouais. bien. Il faut venir nous voir à la Bastille. On va parler du code typographique.
Un peu de nostalgie, oui.
Vous... Voilà, exactement. Il faut voir l'avenir. Ça, on se sert du passé pour avancer. Donc, oui, on conserve évidemment tout ça à l'esprit et on continue.
C'est joli ce que vous dites. Comment ça s'est passé? Jacques Souvent passé dans la rue, il est entré, vous êtes où?
Oui, il est dans notre cour, voilà, qui est situé boulevard de la Bastille, dans un immeuble industriel, face au port de Plaisance.
Alors on entre, donc, on vous voit, on est dans la cour, il vous a vu au travail de l'autre côté de la vitre?
Exactement, donc j'étais en train de traiter tous les dossiers de fabrication avec mon responsable de production, et donc voilà, on a eu cette visite matinale assez étonnante, parce que maintenant Paris se lève un peu plus tard, et surtout la cité du 36.
Vous êtes en blouse?
Non, pas vraiment.
On ne met pas une blouse parce qu'il y a de l'encre, non? On ne met pas
non,
une blouse
non, non. Non, pas ici. Aujourd'hui, tout est digital, donc c'est une presse digitale. Donc,
mais
non,
pour
non,
me faire plaisir, tout. Éventuellement.
Faut voir. N'hésitez pas à venir.
Bon, on va venir. Donc,
oui,
au fond, c'est ça qui est beau, c'est que le déplacement crée la blouse, en fait. Le mouvement crée le vêtement.
Peut-être. Bah, on a des designers très, très connus dans notre cour également. Et il y a, au-delà de tout ce qui est industriel, voilà, des designers, des architectes.
Ce sont des cours où il y a des artisans comme ça qui ont des ateliers
Oui, tout à fait.
Vous croisez, il y a des histoires, des amitiés, des aventures.
Oui, bien évidemment.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous observe par la fenêtre, un architecte qui fait exprès de passer devant sa fenêtre pour vous entreapercevoir?
Peut-être.
Vous nous raconterez.
Exactement.
Une très belle journée à vous.
Hein. Merci de me faire commencer ma semaine ainsi.
Merci
à très bientôt.
À vous. Se pencher à sa fenêtre, regarder la typographe ajuster ses encres et ses lettres, les essuyer sur sa blouse blanche le matin et bleue le soir, connaître ses horaires, la croiser dans la cour, ne pas oser l'aborder, et puis un jour enfin se lancer, la faire sourire, un rendez-vous accepté, un verre, deux verres entrechoqués, marcher sur les quais, puis, salut.
7h, 9h, plus près de toi.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi?
Il fait une chaleur dans cette émission. I bongo with my lingo.
7h, 9h, plus près de toi.
De la politique traitée comme des courses de chevaux. Christophe Denner, Olivier Malachane, bonjour.
Bonsoir, Edouard.
C'est la seule émission du matin où on dit bonsoir. Oui. Face à vous, Thomas Baumgartner va vous cuisiner, les gars.
Oh là là. Nous avons peur.
Bonjour à tous les deux, à chacun. Oui, on va connaître prochainement, dans 5 jours, une échéance en France, une échéance politique. Et dans ces moments-là, selon les époques, il y a différentes expressions dans d'autres domaines de ces échéances-là. Et en l'occurrence, là, dans le domaine de... Alors, pas des courses à proprement parler, mais du, comment on dit, bookmaking, des bookmakers. Mm-hmm. Vous avez fait, l'un et l'autre, vous avez signé dans Les Échos il y a quelques jours un article à propos des bookmakers politiques en Angleterre, parce qu'en français c'est interdit. C'est quoi les bookmakers politiques? Comment les présenter?
Ils prennent des paris sur l'arrivée de la course électorale.
C'est ça.
C'est-à-dire, je ne sais pas depuis quand ça a été ouvert les paris sur l'élection présidentielle, mais je sais qu'on a pu toucher, on a pu acheter des paris sur Fillon à 100 contre 1 en juillet. À 2 contre 1 en janvier. Et aujourd'hui, après la dégringolade, ça remonte. Là, on a notre spécialiste qui suit ça. Oula. Minute par minute.
Ça a changé cette nuit. Il y a eu un twist, ça a twisté.
Sens
comment, Dodeline. Oui, ils sont contents.
Non, mais c'est assez étonnant. Oui,
Olivier Malachane, vous avez l'air. On sent le chroniqueur.
Il est très chaud.
Est-ce que vous pouvez chroniquer une arrivée politique comme une arrivée hippique?
Je ne sais pas si la ligne droite va être terrible. Fillon est aux portes de la France. Français, fuyez, juifs, fuyez, catholiques, intégristes, ouais, sortez de vos trous. Ah si, mais nous avons peur, Marine Le Pen est là. La table va basculer, oui. Nous avons très peur.
Ok. Attention au départ, attention sur l'idée de départ. Attention, on va partir. Mélenchon, il est à combien contre 1?
Je ne sais plus si. 8 contre 1.
8 contre 1. Hamon est à combien?
Il est dans les affres, 200 contre 1.
Alors je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas bien le monde du pari mutuel urbain, du PMU, 2 contre 1, c'est un favori, c'est-à-dire pour 1 euro joué, vous n'en gagnez que 2.
2 de bénéfice.
100 contre 1, ça veut dire que si vous jouez 1 euro, vous pouvez gagner 100 euros, c'est donc un outsider complet. Donc le favori en ce moment est qui ?
Macron.
À combien contre 1 ?
Macron, égalité. Vous doublez votre mise, simplement.
Donc on est simplement à 2 contre 1. Donc chez les bookmakers, chez les parieurs anglais, on ne gagne rien si on joue Macron.
Enfin, on gagne rien.
La salle est à combien, par exemple ?
La salle est à 500, vive la poésie.
Vous, 500 un homme de contre 1.
500
donc,
contre
effectivement,
1, oui.
La poésie à 500 contre 1.
Donc,
bravo la culture française, bravo.
Donc, est-ce qu'on suit l'évolution ? Donc, vous
avez
parlé
de
Fillon qui
jours,
est passé
oui.
à 8 contre 1. Donc, on suit.
Fillon est passé à doubler hier Marine Le Pen dans les sondages. Enfin, dans les sondages, même dans les sondages. Où vous en avez un où Marine Le Pen est en tête, un où il est deuxième, c'est là. On vous embrume le cerveau, c'est fantastique.
Il y a une transe en vous, Olivier Malachin.
Oui, je ne dors plus comme les boucs, nous ne dormons plus.
Chez moi, on appelle ça la tourette. Hein. Vous êtes atteint du syndrome de
les boucs, le les syndrome boucs Gilles de la tourette. Les boucs vont perdre des centaines de milliers de livres.
Alors juste après, on fera l'arrivée
électorale.
Est-ce
qu'ils peuvent vraiment perdre ? Est-ce que Christophe les boucs peuvent... Parce que sur Trump, ils ont perdu gros. Enfin, certains ont perdu gros.
Vous voulez dire, chez les bookmakers anglais, chez les parieurs, Hillary Clinton était déclarée gagnante à combien contre 1 ?
Se vend plus. 25% des mises n'étaient placées que sur Donald, votre cher ami. Il vient de la télé. Futur Hanouna président, voyez. 500 contre 1, 1000 contre 1, vous pouvez parier. Hanouna président, Trump l'a fait, Hanouna peut-être.
Alors formidable. On peut parier sur tout et n'importe quoi en Angleterre. On peut parier sur le sport, sur la politique. Je peux même, moi, aller voir un bookmaker, lui lancer un pari. Je parie, par exemple, que Thomas Baumgartner viendra habiller en femme demain.
Très bien.
Il faut juste que je trouve quelqu'un qui accepte de parier.
Édouard Baer sur le remake de Turf. Combien cela vaut-il ? Lançons une cote.
J'en ai tourné des nanas.
Voilà.
Okay. Non, mais il faut bien dire une chose quand même, c'est que les sondages et les cotes, c'est pas la même chose. Comment, c'est quoi le lien entre les deux ?
Les uns influencent les autres, comme les votes sont influencés par les sondages et réciproquement. Donc c'est un jeu très très intéressant et très cathartique finalement.
Est-ce que les paris sont plus fiables que les sondages ? C'est-à-dire que, est-ce que les gens ne regardent pas plus les paris maintenant ?
C'est-à-dire que tout ça est un maelstrom de combinaisons d'influences réciproques où on ne sait plus, on ne peut pas se retrouver. Est-ce que moi je suis influencé parce que je sais que machin est devant, donc il ne faut pas que l'autre soit derrière, donc je vais le jouer parce que j'ai lu dans le sondage. Mais un pari fait réfléchir, comme on dit. C'est-à-dire qu'à un certain moment, oui je veux que celui-là, mais qu'est-ce que je joue ? Sur quoi je suis capable de miser ? Pour croire vraiment, c'est-à-dire, est-ce que c'est ma volonté, est-ce que c'est la volonté de gagner de l'argent ? Je sais que Macron va gagner, c'est-à-dire, je sais, par exemple, tout le monde sait que Marine Le Pen va perdre.
Ah bon ?
Oui.
Tout le monde sait.
Marine Le Pen va perdre, oui.
Et pourtant, tout le monde la joue. Et pourtant, elle est presque favorite.
Vous parlez en jeu ou en élection, là ? Vous parlez en pari, d'accord.
En pari, elle est la deuxième favorite depuis toujours. C'est sur elle que... circule le plus d'argent.
Mais est-ce qu'il y a vraiment des gens qui jouent beaucoup d'argent sur les élections ?
Il y a un mec qui a mis 30 000 euros gagnant sur
Marine Le Pen. Marine. 30 000.
Après, il y a quelque chose de particulier, c'est que ça se passe en Angleterre. En France, on n'a pas le droit de faire ce genre de pari. Donc ceux qui parient...
C'est absurde.
Alors ça, c'est une autre chose.
Nous sommes, nous, électeurs, citoyens, joueurs, Malachal, nous sommes victimes du Frexit.
Mets ton casque.
Le Frexit. Asselineau, où es-tu ?
Calme-toi, Marine
Le Pen, où êtes-vous ?
Vous êtes très ventilé, Olivier Malachal.
Ces élections me rendent fou.
Ce que vous dites dans l'article des Échos qui est paru il y a quelques jours, Christophe Denner et Olivier Malachin, c'est que beaucoup d'argent effectivement circule sur le nom de Marine Le Pen, aussi parce qu'en Angleterre elle est la plus connue, c'est un nom qui est connu déjà parce que c'est la fille de son père, donc dans le paysage à l'étranger.
Elle est surtout connue pour avoir perdu 7 élections présidentielles. Enfin, les Le Pen ont quand même perdu 7 fois. On ne peut
donc
pas jouer
c'est une présence depuis longtemps.
Décemment, quand on est un joueur un peu cohérent, on ne peut pas jouer un cheval qui a perdu 7 fois la course. Mmh. La même course, 7 fois... On arrête, quoi. Eh ben non. Les gens continuent de jouer Marine Le Pen, de dire elle va gagner. Alors, elle est utilisée, en fait, par les uns et les autres comme épouvantail, mais elle ne peut pas gagner. Et pourtant, c'est là où les bookmakers sont géniaux, c'est qu'ils arrivent à créer, même pas eux, tout seuls, ils profitent de la bêtise humaine pour engranger des paris sur un fantasme qui est Marine Le Pen.
Oui, vous dites, certains parient sans espérer gagner, comme d'autres achètent des chaussures sans les porter.
Voilà.
Mais est-ce que la mafia va intervenir, va voir les candidats en disant tu te couches parce que je vais perdre du pognon ? Ce serait quand même pas mal, comme dans la boxe, dans les films qu'on adore.
Ah oui, ça oui.
Ils vont voir la salle où cheminade en disant tu te couches parce que sinon on t'en met une et on perd du fric.
Sur les petits candidats qui effectivement sont à 100 contre 1, ça peut aller très vite. C'est-à-dire qu'une mise de 10 000 euros peut faire basculer une cote, de passer de 100 à 20 contre 1. Et à ce moment-là, on peut gagner beaucoup d'argent dans la bascule, parce qu'il n'y a pas que les bookmakers, il y a aussi le pari, le betting exchange, qui est une espèce de bourse, de foire générale, où vous pouvez donner des paris et en prendre. C'est-à-dire, vous pouvez proposer des paris. Vous allez sur ce site et vous proposez Marine Le Pen à 20 contre 1. Vous allez avoir plein de gens qui vont vous donner du 20 contre 1 pour Marine Le Pen.
Est-ce que, comme dans
le... vous êtes obligé de payer si elle gagne.
Comme dans les paris sur le foot, on peut aussi miser sur le score final, pas seulement sur le gagnant, non? On peut dire, je parie que, par exemple, que Hamon aura tel pourcentage, ou on parie juste sur le gagnant?
Ça, c'est sur le betting exchange. Vous pouvez proposer tous les paris que vous voulez. Et vous là, êtes... si vous trouvez un type qui est en face de vous qui veut... Vous êtes le bookmaker de qui veut.
Et est-ce que quelqu'un jouait Erdogan parce qu'il était sûr de gagner là, ce week-end, non?
Il y a eu des paris sur la Turquie.
Ah oui, vous pouvez.
Olivier Maj.
Je n'ai rien suivi la Turquie, non.
Le pari politique, c'est devenu un genre en soi. C'est pas nouveau, mais c'est un volume jamais connu, en tout cas en ce qui concerne les
élections françaises. En tous les cas, ça jamais. Là, celle-là, je pense que c'est grâce à la ou à cause de la des primaires que ça a déclenché quelque chose de fort. Et puis l'affaire Fillon a bouleversé
Fillon est native du Pays de Galles.
Oui,
donc
c'est peut-être ça.
Je vois vos yeux gourmands d'écrivain, Christophe Donnel. Vous préparez, vous écrivez sur quoi là en ce moment?
Non, ça n'a rien à voir.
Est-ce que vous aimez bien Est-ce qu'il y a des conversations
c'est
quand on est écrivain?
Il cache des choses.
Quand on rencontre des gens, quand on va dîner chez eux. Alors, cher maître, sur quoi écrivez-vous en ce moment? C'est une phrase un peu qu'on entend ou pas?
Fatigue. Moi, j'écris sur un personnage, mais un Français du 19e. C'est un peu ma marotte, le 19e. C'est là où ont été créées les courses de chevaux et plein de choses. Et notamment, un type s'appelle Scott de Martinville. Vous avez entendu parler
non.
de Scott
de Qu'est-ce qu'il a fait de Scott de Martinville? Vous le direz, il faut acheter votre livre.
Dans un an et demi.
Alors, Olivier Machan, Olivier Malachan est déchaîné. Donc,
oui, je suis déchaîné.
Vous êtes un pariteur, Olivier Machan?
Je suis un ancien.
Vous avez été foutu à la porte? Je comprends pourquoi. On va faire le départ de la course d'élection. Vous préférez la commenter assise ou debout?
Ah si, je ne sais pas du
attention,
tout,
c'est
allongé
parti.
Sur la table.
Attention, on est allongé, vous avez... Attention, oh au départ, les chevaux vont sous les ordres. Mélenchon, Hamon, Fillon, Le Pen, Macron, Lassalle, Asselineau, Artaud, Poutou, et il me manque mon cheminade. Attention, c'est parti, les chevaux.
Et c'est parti. Oui, Emmanuel Macron prit la tête et corps de
on
Manu.
On est au tournant d'Auteuil.
Manu a pris la tête, tournant d'Auteuil. La ligne droite est là. Deux obstacles à franchir, Emmanuel Macron est en tête, François Fillon poussé par son combat, elle a
il
pousse, oui,
vas-y.
Et Marine Le Pen, elle est pas loin,
Jean-Luc
Mélenchon revient, il est sorti malade,
vas-y,
vas-y,
il a gagné, mais on ne sait pas qui. À tout de suite. Merci, messieurs.
Photo générale.
Plus près de toi. Plus près de toi. Édouard Baird.
François, nous souhaitions terminer cette émission sur un jeu. Je crois qu'il est important de jouer par les, je peux dire par les temps qui courent.
En cette période de Pâques, Édouard, en cette période de Pâques, nous allons jouer à chercher les œufs. Non pas chercher les œufs dans le jardin ou dans la nature, mais chercher les œufs dans la littérature.
C'est un jeu pour les auditeurs, c'est un jeu qui n'est pas dans l'entre-soi. Hein.
Non, c'est un important. Jeu pour les auditeurs. Ouais. Alors, premièrement, cherchons les œufs dans La Disparition, le génial lipogramme de Georges Perec.
Oui.
Je vous lis un petit extrait. Il abandonna son roman sur son lit. Il alla à son lavabo. Il mouilla un gant qu'il passa sur son front, sur son cou. Son pouls battait trop fort. Il avait chaud. Il ouvrit son vasistas, scruta la nuit. Il faisait doux. Un bruit indistinct montait du faubourg. Un carillon plus lourd qu'un glas, plus sourd qu'un tocsin, plus profond qu'un bourdon, non loin, sonna trois coups du canal Saint-Martin. Un clapotis plaintif signalait un chaland qui passait. Alors, 355 lettres dans cet extrait de Georges Perec et pas la moindre trace d'eux. Deuxièmement, c'est un texte de moi. J'ai essayé de faire comme Perec. J'ai un petit peu raté mon coup, je crois. Je vous lis mon texte. Cette élève dégénérescente espère déréglementer le réensemencement.
Donc il y a beaucoup de E là.
60 lettres dans cette phrase, dont 26 E, soit deux douzaines bien comptées. Alors à votre tour, chers auditeurs, envoyez vos textes à Édouard Baird à l'adresse suivante, Douard Baird, peut-être de la CRI à Marseille, ou bien Douarbar, La Panac à Montplir. Hein, où vous serez après-demain. Vous me suivez ou pas, Edouard?
Oui, parce magnifique, que moi, j'étais parti sur les œufs, je n'avais pas compris le jeu de mots de départ, qui était, qui était un œuf, des œufs.
Ah, des œufs, ben oui, des œufs. Vous y êtes maintenant?
Oui, j'y suis.
Eh ben, est-ce que ça vous va bien, Douarbar, comme,
oh, ben moi, je prends
comme
tout
nom
vous,
de code?
Ce que vous me donnez, vous savez, je crois, ça fait partie de ma philosophie de vie. Je prends les choses, ouais. Et c'est à partir de là que je me réjouis de ce qu'on me donne.
Je prends les choses.
Moi, j'ai un jeu pour vous.
C'est fini? Oh, non, oui, non. Armel. Non, mais François, vous aviez fini?
Ben oui.
Est-ce que vous êtes capable de tenir l'antenne comme ça pendant 1 minute 30 à partir de je ne sais pas quoi, en pure invention?
C'est ce qu'on fait depuis 100 ans. Non, mais connu. François, moi, j'étais intéressé par votre jeu parce que je ne l'avais pas compris. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai vraiment cherché des œufs comme la poule qui pondrait un œuf, si vous voulez.
Oui. Non, ce qui est absolument admirable, parce que le bouquin de Georges Perec, La Disparition, il n'y a pas une seule fois la lettre E en 300 pages. C'est ahurissant. Essayez juste, vous, chez vous, d'écrire deux lignes, une ligne sans un œuf, c'est déjà très difficile.
Comprenez-moi bien, pour un auditeur qui serait mis à chercher des œufs, vraiment, comme l'œuf de la poule, ou l'œuf de l'autruche, ou l'œuf de la caille.
Les auditeurs, contrairement à vous, sont réveillés.
Oui, non, mais je trouve ça un tout petit peu étrange de votre part de n'avoir pas pris du tout, de n'avoir pas fait attention à ça, d'avoir pris cette précaution-là.
D'accord. Bon, bah alors à ce moment-là, ce qu'on peut dire, c'est oublions, on efface tout ça, et puis mardi prochain, on refait le jeu, mais je l'explique.
Parce que dans le cadre des œufs, il y a un singulier qui est œuf, mais dans le cas de la lettre E, le singulier n'est pas œuf.
Non, c'est E.
C'est E, donc pluriel ou singulier, c'est E.
C'est toujours ça, le problème, c'est E.
Le problème de la lettre, c'est que même au pluriel, ça...
Le problème, c'est les autres. Le problème, c'est E, c'est pas nous.
C'est pas nous.
Nous, ici, on a bien fait notre boulot.
On est bien, on est propre, on est droit dans nos bottes. Une très, très belle journée à tous. On vous retrouve avec plaisir demain.
Encore plus à vous. Si vous saviez, chers auditeurs, comme il a un beau sourire, notre Edouard. Quel beau sourire de printemps.
Non, on a eu des... Il y a eu des mauvaises humeurs à des moments, mais on est quand même...
Pas du tout.
Assez heureux. Et on est ravis de vous voir demain. Voici les 30 Glorieuses. Salut.
Edouard Baird.
C'est les deux dernières années, grosso modo, et puis arrive le moment des attentats.
Bah oui, bah c'est le 13 novembre.